Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Au mois de novembre, le gouvernement congolais a imposé un moratoire sur les adoptions internationales jusqu'au mois de septembre prochain suite à des soupçons de fraude et de traite des êtres humains. Une Belge a été condamnée à 6 mois de servitude pénale le lundi dernier par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Ces deux co-accusés, agents de la DGM, écopent aussi de 3 mois de prison pour complicité. Le juge de paix reproche à la mère adoptante de vouloir contourner le moratoire imposé par le gouvernement congolais. Que proposez-vous pour encadrer efficacement cette mesure du gouvernement? Nous en parlons avec vous dans cette émission et nous avons invité Claver Tuzubu, juriste et assistant à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Berry Franklin Luchaka, Rose Nyanfoura sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Pierrot Elamenji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamenji.
Comme je venais de le dire, au mois de novembre dernier, le gouvernement congolais a imposé un moratoire sur les adoptions internationales jusqu'au mois de septembre prochain suite à des soupçons de fraude et de traite des êtres humains. Et pour cela, une Belge a été condamnée à 6 mois de servitude pénale le lundi dernier par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché de vouloir contourner la mesure du gouvernement congolais. Que proposez-vous pour encadrer efficacement cette mesure? Nous en parlons avec vous. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission. Comme je le disais, nous avons en ligne M. Claver Tuzubu. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot Elamenji.
Nous parlons de l'adoption. Comment encadrer la mesure du gouvernement sur l'interdiction des adoptions internationales? Mais vous, en tant que juriste, pour permettre aux auditeurs de comprendre avant d'aller plus loin, c'est quoi? Ou juste quand on parle d'une adoption en droit, ça vous fait penser à quoi?
Oui, merci, Monsieur Pierrot Elamenji, pour la parole que vous me donnez et puis l'occasion que vous me donnez pour échanger avec les auditeurs de la Radio Capi. Quand on parle de l'adoption, on fait juste allusion à un lien de parenté ou de filiation qui doit exister entre un enfant et un parent qui n'est pas son parent biologique.
Mm-hmm.
Donc, c'est un lien artificiel qu'on crée par le biais du droit pour créer une relation entre un enfant, un père ou une mère.
Mmh.
Ça se fait par biais de justice.
Mmh. Et pourquoi on parle de l'adoption internationale?
On parle de l'adoption internationale parce que il y a un élément étranger qui entre dedans.
Mmh.
Parce que il y a un monsieur qui est d'un autre pays, qui désire adopter un enfant d'un autre pays. À ce moment-là, l'adoption devient internationale.
Mm-hmm.
Donc, c'est un lien qui est créé entre deux personnes qui ne sont pas des mêmes, non seulement des mêmes familles, mais qui ne sont pas non plus de même pays.
Mm-hmm.
Donc, ainsi que l'adoption est qualifiée à ce moment-là d'internationale.
Mm-hmm.
Donc, entre les personnes de différents pays.
Mais est-ce qu'il y a des éléments qui constituent l'adoption? On peut dire c'est quoi? Je peux me réveiller le matin, je me dis voilà, j'ai besoin d'adopter un enfant, je vais adopter. Ou y a-t-il des conditions spécifiques pour qu'on arrive à une adoption?
Oui, M. Pierrot et la Mengi, vous avez raison de poser la question. On ne peut pas se réveiller le matin, on dit non, voilà, j'ai adopté quelqu'un. Ou vous vous arrangez en privé avec un monsieur, vous dites donnez-moi votre enfant, il devient mon enfant par adoption. Non, il y a une procédure, ça s'est fait devant les tribunaux. Mais actuellement, nous avons les tribunaux pour enfants, c'est auprès des tribunaux pour enfants que ça doit se faire.
Mmh.
Autrefois, avant l'installation des tribunaux pour enfants, il y avait les tribunaux de paix, même alors d'ailleurs, à travers les pays, là où on n'a pas pu installer les tribunaux pour enfants, on passe au tribunal de paix pour obtenir un jugement d'adoption. Donc, l'adoption se fait par voie des décisions judiciaires.
Et là, les auditeurs voudraient savoir, parce que le gouvernement a pris ses décisions, pris ses moratoires pour dire attendez, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de situations qui arrivent, des situations floues, alors on suspend jusqu'à voir comment mettre de l'ordre. Alors, qui entre en ligne des comptes, les personnes qui sont concernées? C'est la personne qui veut adopter avec l'enfant, les parents, ou s'il est orphelin et le juge c'est fini, ou il y a d'autres personnes qui peuvent être comme des témoins pour accompagner cette adoption et éviter qu'il y ait des fraudes?
Oui, mais justement, vous posez une très bonne question. Le gouvernement a décidé impérativement de suspendre pendant un moment les adoptions suite aux abus constatés en matière d'adoption internationale. Vous savez, chez nous, il y a un problème. Tous les secteurs de notre vie est réglementé par les... La loi portant protection de l'enfant de 2009 donne les conditions pour que quelqu'un puisse adopter, surtout si c'est un étranger. Parce que le problème d'adoption, ce sont les étrangers ou les Congolais qui habitent l'étranger ou alors qui ont changé de nationalité qui nous posent des problèmes. Il y a des conditions. Il y a d'abord les requérants, c'est-à-dire celui qui veut adopter, doit justifier de l'aptitude d'adopter. Il doit justifier qu'il est apte à adopter, il est de bonne moralité, il peut encadrer un enfant. Ça ne doit pas être un pédophile, ça ne doit pas être un homosexuel, ça c'est notre loi à nous. Alors, quand vous demandez, le juge ne doit pas rendre les jugements vite, il doit attendre l'avis du ministère public. Parce que concerne l'enfant, le ministère public, donc le magistrat du parquet, est obligé d'intervenir pour garantir l'intérêt de l'enfant. Et puis il y a le consentement d'autre part des parents et le consentement de l'adopté lui-même. En dehors de ces conditions, il y a d'autres conditions de suivi dans l'état d'accueil et l'état d'origine doivent coopérer pour trouver un moyen pour protéger l'enfant, parce que tout porte sur la protection de l'enfant.
Et là, vous avez évoqué le consentement de l'adopter. Et tout de suite, on pense à quel âge, en principe, on doit adopter. Ça commence à quel âge jusqu'à se terminer à quel âge?
En fait, pour celui qu'on doit adopter, les conditions exclusives d'un bébé, non. L'enfant à tout âge peut être adopté. Tout âge peut être adopté. Mais il faudrait qu'il y ait des mécanismes de protection et d'accompagnement de l'enfant. Avant 18 ans. Dès qu'il a 18 ans, il est majeur. À ce moment-là, la donne change. Parce qu'on peut aussi adopter quelqu'un, un majeur, on peut aussi l'adopter. Mais comme nous parlons des enfants, l'enfant jusqu'à 17 ans peut être adopté. Il a 10 ans, il doit donner son avis. Avant 10 ans, ils doivent contrôler.
Voilà. Mais il en est de même aussi, hein, pour celui qui adopte, il doit avoir quel âge? C'est tout majeur peut adopter.
Oh, justement, parce que vous en parlez, Monsieur Pierrot, c'est justement ça le problème. La loi dit qu'une personne capable peut adopter, mais à condition qu'il y ait
On a des petits soucis des lignes avec vous, Monsieur Claver, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, voir comment nous accorder peut-être une autre ligne téléphonique. Là, on a des petits soucis. On a suivi, il y a un moratoire, la loi prévoit, les conditions sont là. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour accompagner les mesures du gouvernement dans cette matière, pour éviter que cela ne soit contourné? C'est la question principale. Mais là, vous avez suivi avec notre invité, on a posé les bases par rapport à ce que la loi dit d'une manière claire. Et nous allons écouter Mathieu qui est à Kananga, Papi qui est ici à Kinshasa. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste Pierrot, de m'avoir accordé la parole.
Et pour vous, quelles sont les mesures qu'est-ce qui doit être fait pour accompagner la mesure du gouvernement?
Bon, d'abord, j'ai un grand regret de constater avec amertume que ce pays est loin de faire le suivi et exécuter des lois qu'eux-mêmes prennent à chaque jour qui passe. Comme si il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Qui de nos autorités qui gèrent actuellement les pays dans tous les niveaux, qui ne sachent pas qu'il y a des réseaux de malfaiteurs et des mafias expansionnées dans notre pays au service des autres étrangères pour le trafic de nos enfants vers l'étranger, où ils sont utilisés là-bas à plusieurs mots, voire même les grandes filles au service d'adultères pour compte des autres maisons de business et les garçons au service des travaux forcés et au cannibalisme. Or, la loi numéro 09/001 du 1er janvier, qui est le fruit du travail réalisé, est là pour protéger l'enfant. Et est-ce qu'il est suivi? Il n'y a pas longtemps, le gouvernement congolais avait déclaré qu'il aura des mesures d'interdiction pour la sortie d'un enfant en dehors du pays, sans la base de ses parents. Est-ce que c'est respecté? Pourquoi les autorités du pays ne veulent plus former une équipe de spécialistes en la matière pour les envoyer partout dans le monde afin de conquérir la situation de nos enfants qui sont là? Moi, je crie à la complicité des services d'immigration et aux autorités du pays. Tous sont dans le désarroi, M. Pierre.
Et si on vous écoute, c'est d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu quand même le fait que les services d'immigration ont beaucoup travaillé, qu'on a eu à mettre la main sur des personnes qui tentaient contourner la mesure du gouvernement. Je crois que nous avons notre invité en ligne. Mais je retiens une chose, Mathieu, dans votre proposition. Vous demandez qu'on puisse former des équipes de gens qui doivent collaborer avec des pays d'accueil pour qu'on se rende compte, effectivement, comme l'a dit notre invité, la loi les prévoit, une collaboration entre les deux pays pour qu'on s'assure que l'enfant qui est adopté, quand il va arriver à son pays d'accueil, il sera gardé dans de bonnes conditions. L'enfant ne pourra pas être utilisé comme esclave ou autre chose. Merci beaucoup, Mathieu. Il faut des équipes pour collaborer avec le pays d'accueil. Merci. Papy, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez suivi. Alors, quels sont les, qu'est-ce qui doit être fait pour accompagner la mesure du gouvernement sur la protection des enfants en ce qui concerne l'adoption internationale?
Oui. Depuis ma part, j'encourage la décision judiciaire qui vient d'être tombée, parce que cela servirait d'exemple pour tout ce qui tenterait à se lancer à ce genre de pratiques. En fait, c'est d'abord de signaler, M. Pierrot, que l'adoption nouvelle formule, c'est-à-dire selon le code de la famille, vise d'abord à donner à l'enfant un cadre familial d'accueil et d'établir une filiation juridique entre l'adopté et l'adoptant. Les autres motifs licites ne venant qu'en seconde position. Mais je me demande si dans toutes ces pratiques-là, soit dans toutes ces options-là, on respecte cette vision du législateur. En plus de cela, l'article 669 du Code de la famille interdit l'adoption d'une personne par une autre qui est célibataire, veuve ou divorcée, de cesse opposée, sauf si les circonstances l'exigent. Pour mieux se rendre compte du caractère frauduleux ou suspect des adoptions internationales, il faut vivre, M. Pierrot, certains cas concrets où les soi-disant adoptants remettent des enveloppes à la famille de l'adopté en vue d'obtenir leur consentement, alors que la loi interdit le caractère honoré de l'adoption. Donc, en droit congolais, l'adoption est gratuite. Alors, pour mettre fin à toutes ces pratiques, pour ne pas aller plus loin, je proposerai quelques solutions. Par rapport à l'adoption internationale, M. Pierrot, il ne suffit pas de suspendre cette adoption-là. Faut-il encore faire un suivi approprié afin de connaître le sort actuel de nos compatriotes déjà adoptés à travers le monde? Parce qu'il est probable qu'ils soient victimes aujourd'hui du trafic des êtres humains qui, comme vous le savez, est devenu actuellement une monnaie courante après le trafic d'armes et de drogues. Il faut en outre assainir notre administration de la DGM, donc l'administration d'immigration, parce qu'il y a des fois, ces enfants-là passent des frontières sans que les agents de la DGM puissent faire un contrôle très, très rigoureux. Enfin, le contrôle minutieux et régulier doit s'effectuer au niveau interne, M. Pierrot, car comme nous sommes entourés par 9 pays voisins. Si les soi-disant adoptants voient qu'au niveau des frontières, le contrôle est devenu rigoureux, ils vont choisir des voies clandestines pour faire sortir ces enfants-là. Alors, au niveau interne, monsieur Pierrot, je souhaiterais d'abord qu'il y ait la vulgarisation et la diffusion de la loi portant protection de la jeunesse. Et en plus, l'installation de cours et tribunaux, soit des tribunaux pour enfants à travers tous les territoires, donc dans tous les territoires de la République, comme le dit la loi elle-même. Parce que actuellement, c'est le juge pour enfants qui est compétent pour pouvoir reconnaître les matières sur les adoptions. Mais à notre grand étonnement, nous voyons que ces tribunaux-là ne sont pas insérés partout et que la majorité des juges qui sont là, il y a des fois, ne sont pas vraiment spécialisés à la matière. Il serait mieux qu'ils puissent bien avoir une formation vraiment adéquate pour faire cela.
Voilà, merci beaucoup, Papy. Vous avez proposé 5 pistes de solutions pour accompagner la mesure du gouvernement. Vous souhaitez qu'il y ait un suivi approprié dans les pays d'accueil pour se rendre compte que toutes les conditions ont été respectées. Il faut renforcer les capacités des agents de service de l'immigration pour leur permettre de pouvoir surveiller comme il faut, mais avoir aussi un contrôle au niveau interne et sur les frontières pour éviter que ceux qui voudraient contourner la mesure du gouvernement ne puissent utiliser les voies clandestines pour sortir les enfants du pays. Il faut la vulgarisation aussi de la loi portant protection de l'enfant. Mais vous souhaitez aussi qu'on installe les tribunaux pour enfants, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, à travers le pays. Et comme ça, ces juges-là vont connaître des cas d'adoption et tout va se faire dans la transparence. Merci beaucoup, Papy. Joseph, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Perrault, de m'accorder encore la parole. Et pour la décision du gouvernement, c'est une meilleure décision qui va faciliter les pays de pouvoir faire une meilleure justice. Mmh. Alors, à propos de tout ce que les prédécesseurs ont déjà dit, moi je pense que le problème se situe au sein du pays. Si les pays pourraient vraiment prendre les choses du sérieux, je pense que on n'aurait pas pu subir tout ce que nous subissons, puisque partout ailleurs, surtout dans les pays frontaliers, et c'est une monnaie courante et les enfants vont, on ne sait pas, ils font ces volatiles dans la nature, puisqu'il n'y a pas vraiment un meilleur service dans toutes les frontières. Mais s'il y avait une meilleure surveillance, je pense qu'on devrait avoir les opportunités. Alors là, il y a la liberté de tout un chacun, comme dans un pays démocratique. Je pense que c'est facile, mais il faut qu'il y ait vraiment une meilleure surveillance entre les pays qui doivent recevoir soit les enfants, de comment ces enfants vont vivre là où ils vont. On ne sait pas comment on les traite, on ne sait pas comment ils vont vivre. Mais s'il y a vraiment une franche collaboration, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas la surveillance et nous ne savons pas comment ces enfants vont vivre, si c'est les faire tirer ou comment, mais vraiment, je pense que la meilleure décision doit être prise et le gouvernement doit collaborer avec les différents pays qui doivent recevoir ces enfants. Merci.
Merci beaucoup, Joseph. Vous souhaitez qu'il y ait une collaboration franche entre, une coopération aussi entre les pays d'accueil pour les enfants congolais qui sont adoptés. Mais vous proposez aussi la surveillance au niveau de frontières neuf voisins. C'est pas facile. Et là, vous avez peur, par exemple, si on ne surveille pas bien, que les gens puissent contourner la mesure du gouvernement, les moyens pour pouvoir amener les enfants congolais sans que les procédures soient suivies comme il faut. Il faut de la surveillance et la collaboration. Merci beaucoup, Joseph Mystère. Vous êtes à Kikwite dans la province de Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Kapi, bonjour les anciens de Kololadé.
Vous avez suivi le souci qui est dans cette émission, c'est de voir comment renforcer la mesure du gouvernement, quels sont les préalables pour permettre à ce que cela ne puisse pas être contourné par ceux qui voudraient violer la loi en matière d'adoption internationale. Quelles sont vos pistes de solutions?
Voilà, avant tout de donner les pistes de solutions, je devrais d'abord rappeler ce qui s'est fait à Kikwite. À Kikwite, le trafic d'enfants s'observe d'une façon régulière et c'est fait de deux façons. Nous avons des centres d'orphelinage qui dominiquent les enfants, ou que soit qui communiquent les communiqués, vont envoyer nous les enfants adoptifs qui n'ont pas de parents, qu'on vient les héberger dans des centres, dans de bonnes conditions. À part ça, les enfants recrutés sont ceux qui sont moins de 8 ans. Ces centres ont leurs partenaires à Kin. Quand les besoins s'imposent, ils viennent directement à Kikwite prendre les enfants adoptifs dans des centres en négociant pour payer l'argent 800 à 1500 dollars pour l'enfant moins de 8 ans selon le sexe et âge. C'est ce qui se fait à Kikwite. Souvent dans des centres de non-religieux des fois.
Oui, je me rappelle d'ailleurs, Mister, pour vous compléter, vous vous rappelez, il y a eu la commission, je crois bien, Justice et Paix qui avait dénoncé cette situation à Kikwit, hein. Il y a eu même, ça a fait même l'objet d'un débat dans Parole aux auditeurs. C'est passé aussi sur les antennes des Radio Capi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment l'ampleur de la situation. Les gens se cachent à travers les orphelinats, les centres d'accueil des enfants pour se livrer à ces trafics. Ça, on a eu organisé les débats autour de ça avec vous dans Parole aux auditeurs. Mais vu tout cela, alors qu'est-ce qui doit être fait pour encadrer la mesure du gouvernement et protéger ces enfants, Mystère?
Voilà, ce qui doit être fait. Notre gouvernement doit renforcer les services de migration. Il doit contrôler qui entre avec quoi et qui sort avec quoi.
Mm-hmm.
De deux, l'État doit suspendre et fermer les centres d'orphelinage, car ceux-ci sont les auteurs de ces ventes des enfants anarchiques. Trois, l'État doit améliorer le social de la population, même celui qui n'a pas étudié, de voir comment il pouvait manger le premier jusqu'au 30. Si tout est respecté, quand même, on pouvait avoir cette récrédissance régulée ou soit se diminuer. Parce que c'est ce qui est toujours à la base de ça, c'est la pauvreté de nos familles qui pousse de ces enfants d'aller se trouver à l'étranger.
Merci. Merci beaucoup, Mister. Vous pensez à côté de cette mesure du gouvernement, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait faire. Il y a le contrôle au niveau des orphelinats, hein, les centres d'hébergement des enfants, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis, il y a aussi l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que la pauvreté est à la base de beaucoup des pratiques illicites dans ces trafics qui se couvrent par les adoptions. Vous souhaitez qu'on puisse contrôler les centres, mais également lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, Mister Jean. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Ok, bonjour Radio Capi, bonjour par les auditeurs.
Voilà, qu'est-ce qui doit accompagner la mesure du gouvernement dans cette lutte contre l'adoption illicite?
Bon, merci d'abord pour la parole. Quelques-uns déjà souligné, c'est seulement lutter contre la pauvreté dans notre pays. Parce que si on améliorait les conditions sociales des familles, je ne pense pas qu'il aurait ces pratiques. Et puis, l'autre problème, c'est quoi? C'est que, moi, je dis ça presque chaque jour, le problème de suivi, même quand on prend une certaine mesure, même si le gouvernement arrête une certaine mesure, s'il n'y a pas de suivi systématique pour mettre fin à une pratique quelconque, que ce soit dans n'importe quel domaine, ça ne réussira pas. On va toujours tourner en rond. Alors, c'est comment je sollicite que le gouvernement puisse avoir une bonne politique salariale. Comme ça, ça va permettre, dans ce domaine spécifique dont nous parlons, d'arrêter cette hémorragie. Puisque vous remarquerez de plus en plus les enfants de la rue ou bien les centres de l'orphelinat deviennent de plus en plus nombreux à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé aussi que non, c'est les moyens, non seulement de trouver l'emploi pour quelques-uns, mais aussi, il y a des financements qui viennent de l'extérieur, voire même de l'intérieur aussi, c'est-à-dire dans notre pays, et qui, en quelque sorte, favorisent, ces adoptions-là. Alors, ça aussi, ça ne peut pas quitter la pauvreté. C'est un peu contradictoire. Donc, il faut que on cesse d'adopter les enfants. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre déjà des mesures conséquentes, c'est-à-dire avoir l'emploi et avoir la vie sociale de la population qui est normale. Et à partir de là, toutes ces pratiques ne modifieront pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de favoriser, entre guillemets. Parce que quand aujourd'hui, deux enfants de la rue, on les a ramassés, on les a mis à un tel centre, ainsi de suite. Après, ça sera quatre, six, ainsi de suite. Et le nombre accroît au jour le jour.
Mm-hmm.
Alors, je crois que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires. Et pas seulement des mesures, mais arrêter l'hémorragie. Par la manière d'arranger le social de la population. Le social qui est depuis plusieurs années des théories.
Merci beaucoup, Jean.
Et cela sera arrêté.
Merci beaucoup, Jean. À côté du moratoire par rapport à l'adoption internationale, vous estimez qu'il y a aussi la lutte contre la pauvreté, il y a l'amélioration de la politique salariale, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de parents n'ont pas de moyens. Il y a la pauvreté, il y a des orphelinats, des centres d'hébergement des enfants qui se multiplient, et derrière tous ces tableaux, il y a ceux qui en profitent pour se lancer dans ces pratiques illicites et chercher comment exfiltrer les enfants, les amener à l'extérieur sous couvert de l'adoption. Merci beaucoup. Et vous avez demandé l'amélioration de conditions de vie de la population. Nous allons écouter Dieudonné qui est à Kamina dans le Katanga. On va revenir à notre invité pour placer un mot par rapport aux commentaires de nos auditeurs. Dieudonné, vous êtes avec nous. Bonjour. Dieudonné, vous êtes à Kamina, bonjour. Oui, Dieudonné, vous avez suivi. Est-ce que la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des salaires, est-ce que ça suffit pour qu'on puisse quand même éviter que les gens contournent la mesure du gouvernement pour essayer d'adopter les enfants d'une manière illégale?
Effectivement, je voulais répondre.
Oui, Dieudonné.
J'étais un cas à témoigner sur place.
Mm-hmm.
Oui, ce cas est arrivé au mois de mars ici à Kamina. Mm-hmm. Il y a un parent qui a fait marier sa fille à travers un individu inconnu dont on ne connaît même pas l'origine. Il s'est pointé comme marier la fille. Effectivement, il a pris la fille, il est parti avec. Moi aussi, j'allais tomber dans ce cas. Effectivement, j'étais vraiment souple. Comme j'ai interrogé le monsieur, il s'est proclamé sud-africain, mais il parlait un swahili, un très bon swahili, plus l'anglais. Tantôt il travaillait à Kamoto, tantôt à Kibula, tantôt à Luena. Il était en tout cas beaucoup de langages. Je l'ai trouvé encore dans une autre famille sur place à Kamina. Il a tenu le même langage. Il citait les grandes autorités au niveau de Kinshasa, au niveau de Lumbashi. Heureusement que je connaissais toutes ces autorités. Quand je lui ai dit que je les connaissais,
oui, allez-y, j'ai donné, oui.
Mettre comme la prédote de ma fille. C'est pourquoi je voulais aviser à tous les parents qu'ils soient prudents, même si la pauvreté règne, que cette pauvreté, on puisse quand même la conserver autrement.
Merci beaucoup Dieudonné pour ces témoignages. Là, ce sont des individus qui se cachent derrière les mariages pour profiter, amener des filles ailleurs. Et on se lance dans l'inconnu, mais au-delà de tout, même si les gens sont pauvres, vous sensibilisez les parents à faire attention en ce qui concerne toutes ces pratiques et surtout ces adoptions. Merci beaucoup Dieudonné. 081-890-6315 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons accorder la parole à notre invité tout à l'heure pour approfondir encore au niveau de la loi en ce qui concerne l'adoption.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, monsieur Claver-Tuzoubou, vous êtes avec nous. Vous avez suivi nos auditeurs. Hein. Tout le monde souhaite qu'il y ait des mesures aussi qui accompagnent ces moratoires. Mais sur le plan juridique, parce que c'est ça aussi, la loi, on a suivi notre ami Papi qui a évoqué l'article 669 que nous avons ici, qui parle de l'adoption d'une personne par une autre célibataire, veuve ou divorcée, de sexe différent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient. Alors, au-delà de tout ça, c'est comment le juge au niveau du tribunal peut-il se rendre compte de toutes ces conditions, de quoi représente l'adoptant. Quels sont les mécanismes que les juges possèdent pour se rendre compte que la personne est de bonne moralité, la personne est mariée, la personne peut-être a d'autres enfants, et voilà. Tout ça, comment le juge peut-il se rendre compte?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Je crois que tous les auditeurs ont essayé de démontrer combien le problème est important dans notre pays. C'est à travers le pays que l'adoption nous pose des problèmes. Quand vous regardez la célérité avec laquelle les jugements sortent, les jugements d'adoption sortent au tribunal, vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en réalité, avant de rendre le jugement, on doit contrôler tous ces éléments que les auditeurs ont énumérés, qui sont entre autres les éléments d'identification de la personne. Parce que la personne doit être identifiée. On doit savoir exactement il habite où, il vit où, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que son pays les reconnaît. Il n'a jamais été condamné pour abus sur les enfants.
Oui, on a
poste diplomatique.
Oui. Oui, s'il y a moyen, je crois bien qu'on va vous recontacter par une deuxième ligne téléphonique, hein, parce que là, on a des petits soucis avec la première ligne, monsieur Claver. Si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, je crois qu'on va bien vous recontacter par une deuxième ligne. Et là, vous étiez en train d'expliquer à nos auditeurs qu'il faudrait, aujourd'hui, vous êtes très inquiet, vous dites par la célérité avec laquelle les jugements sont rendus en matière d'adoption. Des fois, ça inquiète, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapidité. Vous demandez si vraiment au niveau du tribunal, on a tous les éléments réunis. Alors, je crois bien, c'est bien maintenant avec la ligne, vous pouvez continuer votre réponse aux auditeurs, monsieur Claver.
Oui, justement, j'étais en train de dire qu'il faut identifier les requérants de l'adoption. Mm-hmm. Donc, celui qui demande l'adoption doit être identifié. Quelles sont ses qualités? S'il habite où? Il fait quoi dans la vie? N'a-t-il jamais été condamné pour l'abus sur les enfants?
Mm-hmm.
Parce qu'en principe, il s'est développé une certaine sorte de mafia à travers le monde. Et on y met beaucoup de moyens pour essayer de courtiser tout celui qui s'est arrangé sur la voie pour bloquer l'adoption. Parce que le trafic d'enfants est en train de payer. Mais au niveau du tribunal, il y a un magistrat du parquet qu'on appelle ministère public, qui est le garant de l'ordre public et des intérêts de la population, et en particulier de l'enfant. C'est lui qui doit mener des enquêtes sur la personne, analyser toutes les pièces qu'on leur donne. Et au-delà de ça, nos postes diplomatiques, nos ambassades, nos chancelleries, doivent s'employer à identifier les mêmes personnes. D'autant plus que l'enfant qui quitte ici prendra même la nationalité de celui qui l'adopte. Donc tout ça, les auditeurs ont essayé de dire, de donner des solutions, en disant qu'il faut une organisation interne de l'administration à partir d'ici,
mm-hmm.
c'est-à-dire au niveau de l'exécutif, au niveau de la DGM, au niveau du ministère des Affaires étrangères, à tous les niveaux, et plus particulièrement dans les cours de tribunaux où les jugements sortent avec une célérité incroyable. Alors vous posez la question, est-ce que les juges ont-ils eu le temps d'analyser tous les éléments à leur disposition? Conséquence, on tombe dans les adoptions qui nuisent aux intérêts de l'enfant. Au lieu que l'adoption soit une protection, comme la loi le dit dans ses articles, que ce soit pour l'avantage ou l'intérêt de l'enfant, mais on tombe dans les cas où l'adoption devient une insécurité. Parce que les enfants, on ne sait pas là où ils vont. Il n'y a pas un fichier, dans aucune de nos ambassades, aucun fichier pour dire voilà le nombre d'enfants adoptés. De la même manière, combien d'enfants sont-ils dans les orphelinats? Alors, combien sont-ils partis? Ce qu'il faut faire, c'est que les juges doivent d'abord être conscients qu'ils doivent protéger l'État. C'est ça la première chose. Il faut placer les juges à leur place et qu'ils soient conscients. Et avoir le courage de les sanctionner quand ça ne va pas.
Mais il y a un problème. Oui, monsieur Claver, vous avez évoqué la célérité. Est-ce qu'on peut avoir une idée? En principe, un dossier comme celui-là, de l'adoption, combien de temps faudrait-il mettre pour vérifier tout cela et rendre le jugement? En principe, combien de temps?
Ok, d'accord, monsieur Pierrot. Dans un cas délicat qui touche à l'état d'une personne comme le cas ici, je crois que le temps doit être le temps nécessaire, long possible. C'est-à-dire, le temps pour qu'on analyse d'abord les documents présentés et qu'on fasse une enquête secrète. Et pour ça, nos services de renseignement, de sécurité, à travers le pays, à travers le monde, peuvent nous être importants et avoir une technique, une manie de nous informer à temps. Alors, on ne peut pas dire que ça doit faire 5 jours. Quelqu'un qui adopte aux États-Unis, à Virginie, à l'État de Virginie, vous ne savez pas où il habite, il faut que nos ambassades puissent identifier et en collaboration bien sûr avec les États et les États-Unis pour nous dire non, le monsieur est admis, apte à adopter. Parce que déjà dans notre droit, nous refusons que les homosexuels et les pédophiles puissent prendre nos enfants. Il faut mettre autant de temps. En tout cas, dans 5 jours, je crois que c'est moins. 1 mois, je crois encore que c'est moins. Il faut qu'on prenne le temps nécessaire en attendant. Parce que les délais mais pas encore indiqué de manière claire dans la loi.
Voilà, on va revenir à vous. C'est bien expliqué dans la loi, il faut mettre autant de temps. Le temps, bien sûr, s'il faudrait, c'est répété, de mener des enquêtes secrètes pour se rendre compte et surtout en privilégiant l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Daniel, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, la radio Kaki.
Vous avez suivi les uns et les autres et notre invité. Comment encadrer la mesure du gouvernement pour éviter qu'il y ait des gens contournent les moratoires pour procéder à des adoptions internationales illicites?
D'accord, la décision du gouvernement, c'est bon, mais la mise en application, c'est ce qui pose problème ici chez nous au Congo. Vous voyez que, monsieur le journaliste, avec l'adoption là, ça se passe ici chez nous d'une manière frauduleuse. Surtout dans nos différentes frontières. Mais j'ai un ajout par rapport à notre invité, que le gouvernement devrait renforcer les services de sécurité, surtout sur les frontières de notre pays. Puisque ici, lorsque les enfants, le trafic des enfants ici chez nous au Congo, par exemple dans des pays voisins tels que le Rwanda, le Burundi et tout consort, est-ce que là-bas, par rapport à notre intervenant, est-ce que les homosexualités ne pourraient pas adopter ces enfants?
Ah oui, vous dites par exemple si les enfants sortent d'une manière illicite à travers les frontières, qu'ils se retrouvent dans un pays proche de la RDC, et là, ne sont-ils pas exposés à être, par exemple, adoptés par les homosexuels, parce que vous l'avez dit, et la loi s'y oppose. On va voir avec notre invité. Merci. On va écouter un autre Daniel qui est à Kikwite dans la province de Bantundu. Daniel, bonjour. Daniel, vous êtes avec nous. Bonjour. Et là, on revient directement à vous, Monsieur Claver. Vous avez suivi l'inquiétude de nos auditeurs, c'est par rapport aussi, hein, des fois aux difficultés qu'on peut connaître au niveau des postes frontaliers. Peut-être qu'ici à Kinshasa, on peut aller à l'aéroport, avoir des agents qui sont regardants. Mais ailleurs, ça peut poser problème que les enfants peuvent sortir d'une manière frauduleuse. Il faut aussi renforcer au niveau de frontières. Et Daniel a peur. Il dit, bon, c'est vrai que la loi a dit, voilà, telle personne qui ne peut pas adopter. Mais dès lors que l'enfant est déjà dans un pays proche de la RDC, et là le risque est grand pour qu'il se retrouve dans les conditions qui sont prohibées par la loi, M. Claver.
Oui, M. Pierrot, M. Daniel a raison, mais je crois que les services de l'État sont régis par le principe de l'unicité du service. Notre service est unique, il a un pouvoir central à Kinshasa. Le renforcement de services de la DGM, ça doit être une obligation. Et urgente d'ailleurs, une obligation urgente. Il faut qu'on les fasse. Parce que si on ne les fait pas, on ne protège pas nos enfants. Quel est le problème? Dès lors que les agents de la DGM, je vais aller loin, ils sont mal payés, et que ces gens qui mettent beaucoup d'argent en jeu, les corrompent, ça passe vite. Alors, ils sont dans l'insécurité eux-mêmes aussi. Les textes des lois ne peuvent pas faire l'objet d'une crise au Congo. Nous avons toutes les lois possibles et nous avons les mesures chaque année, chaque mois, chaque semaine, nous avons des mesures. Le problème d'application, c'est un problème de volonté et de conscience et de l'intérêt de l'État. Je crois qu'il faut renforcer ce service. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Nous devons avoir les services à la hauteur de la dimension de nos frontières et avoir des spécialistes. Même les services de renseignement qui espionnent ces gens-là dans leur propre pays pour vous sécuriser. Ça, ce n'est pas interdit parce que ça se fait à travers le monde. Mais je crois que le plus grand problème, c'est de travailler à l'interne, améliorer les conditions sociales de toute la société, et puis améliorer les conditions de vie et contrôler très bien les juges aussi, même les sanctionner. Parce que les juges, même les avocats aussi, maintenant, en font toute une affaire. Il y a des avocats qui ne sont spécialistes que des adoptions internationales. Alors, il faut aussi les surveiller très bien. Comment vous pouvez être un avocat, les adopter, vous faites adopter, vos clients font adopter 150 personnes, où est-ce qu'ils se trouvent? On doit contrôler l'origine des enfants. Et contrôler très bien les orphelinats. Les intervenants sur les orphelinats ont dit quelque chose. Ça fait mal, même ici à Kinshasa. Vous passez à côté d'un orphelinat, il y a des bruits. Quelques temps après, vous passez, il n'y a plus de bruit. Est-ce que l'État connaît combien d'enfants étaient dans cet orphelinat? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, améliorer les conditions de vie les conditions de travail et avoir le courage de sanctionner à tous les niveaux. C'est un problème national. Les textes de loi existent, on n'a pas de crise de loi. On a la crise d'application des lois. Et à ce niveau, on a un problème d'homme et de courage. Quel est cet homme de courage qui doit sanctionner sans regarder le visage?
Voilà. Il y a notre ami de Cucuit qui a évoqué le problème des monnayages, parce que là, on se rend compte que on dit on a besoin d'adopter un enfant. Au même moment, on propose à la famille une certaine somme d'argent. Il y a même Papy de Kinshasa qui l'a évoqué aussi tout à l'heure.
Oui, cela est lié à la pauvreté, M. Pierrot. Alors, notre loi est claire. L'adoption est gratuite et on doit vérifier si le consentement des parents de l'adoption est requis sans contrepartie, bien sûr, financière.
Oui.
Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a même des parents, à cause de la pauvreté, commencent aussi à solliciter l'adoption. Si je trouvais quelqu'un qui vient adopter mon fils, je peux être heureux. Il y a un autre problème, peut-être qui passe inaperçu. Notre loi dit, dès lors qu'on a adopté l'enfant, les deux familles restent en contact. La famille adoptive et la famille de l'adopté restent en contact, ils ont des liens. Maintenant, je pose la question, les parents qui font adopter leurs enfants, sont-ils en contact avec les parents qui ont adopté? Je crois que ce n'est pas... Cette question, on peut prendre du temps, faire les enquêtes. On trouvera peut-être 2 sur 50. Donc, c'est que le problème est clair. Il faut travailler au niveau de la pauvreté de la population, améliorer les conditions. Si, par exemple, l'enseignement était gratuit pour tous les enfants et que les parents qui sentent que c'est une charge peuvent être déchargés au niveau de la scolarité,
oui,
je crois que c'est un début de solution.
Et
à ce niveau, parce qu'il y a des pays qui refusent l'adoption. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps, Madonna est allée à Mozambique pour aller solliciter l'adoption et on a refusé juste pour des convictions religieuses. Sinon, voilà, nous refusons. Nous gardons notre enfant dans la pauvreté, mais nous refusons. Donc, si nous sommes capables de dire ça et que les juges sont capables de mener réellement les enquêtes et prendre une position courageuse dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt de l'État, on peut arriver à bloquer ce mécanisme de la mafia qui consiste à nous voler les enfants, aller faire de ces enfants les esclaves et aller vendre les organes humains.
Voilà, on va revenir à vous. Jean Dédieu et Takikuit, Pierre et Takindou, il faudrait d'abord la lutte contre la pauvreté, l'accessibilité de l'éducation. Si on permet à tous les enfants d'accéder à l'éducation gratuitement, comme avec cette loi sur l'enseignement gratuit au niveau de l'école primaire, l'enseignement fondamental, si ça permet aux enfants de pouvoir accéder facilement à l'éducation sans débourser des moyens, c'est qui va aussi permettre aux parents de pouvoir encadrer leurs enfants. Mais dès lors que les parents n'ont pas le moyen d'envoyer les enfants à l'école, il faut beaucoup d'argent. Et puis, il y en a même qui souhaitent que leurs enfants soient adoptés. Comme ça, ils se sentent déchargés. Mais tout, c'est au niveau de la conscience, comme vous l'avez dit, avec aussi la responsabilité des juges, le renforcement de mécanismes de contrôle. Jean Dédieu et Pierre, on va vous accorder la parole. Le numéro, c'est 081-890-1315. Le gouvernement a décidé depuis le mois de novembre dernier de pouvoir arrêter momentanément les adoptions internationales jusqu'au mois de septembre prochain suite à des soupçons, des fraudes et des traites des êtres humains. Une Belge a été condamnée à Kinshasa à 6 mois de servitude pénale. Elle a été accusée de pouvoir contourner cette mesure du gouvernement. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que vous proposez pour que cela soit plus efficace sur terrain? C'est ça la question au centre de notre échange de ces jours.
Parole aux auditeurs.
Jean Dédieu, vous êtes à Kikuit, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à notre guest sur le plateau.
On vous écoute, Jean Dédieu. Vous avez suivi les uns et les autres. Plusieurs des comparaisons sont revenus sur la capacité des services de sécurité d'immigration de pouvoir contrôler bien au niveau des frontières pour éviter qu'on contourne les mesures du gouvernement. Qu'est-ce que vous proposez?
Oui, vraiment, nous saluons décision de notre gouvernement pour mettre fin à ce trafic des enfants. Nous savons que les enfants, c'est l'avenir du pays. Et les enfants ne doivent pas être vendus comme des marchandises et aller avec des enfants et des étrangers pour ne pas espérer quelque chose aux années à venir. avec ce système-là, d'adopter les enfants. Mais ce qu'on donne là, des contributions qu'on donne là, de l'argent qu'on donne là, et aux responsables des enfants, ça doit finir, mais les enfants seront ce pays à la longue. Ce que nous déplorons, c'est le même système. Nous encourageons que cette mesure-là prise par le gouvernement, que cela soit moins efficace. Et nous trouvons que ce qui est vraiment inacceptable, c'est à partir de nos ambassades. Tout vient que des sommets. Parce que c'est bien eux qui sont là, qui contrôlent tout, qui gèrent tout. Et nous, ici, dans les provinces, nous voyons que des gens qui viennent qu'en partenariat, oh, nous venons pour récupérer les enfants malnutris, nous venons pour la formation. Mais ici, on n'a pas quand même cette possibilité-là d'interdire, parce que l'autorisation vient que là, au sommet, dans nos ambassades. Ils doivent contrôler tout ce qui se passe. L'entrée de nos partenariats et leur sortie du pays, ils doivent contrôler. Ils sont venus mais vides, ils doivent aussi rentrer mais vides, oui.
Merci. Et Jean de Dieu, vous estimez qu'il y a, aujourd'hui, on l'a évoqué, notre ami Mystère aussi a évoqué cela, de temps en temps, il y a ces partenariats avec des centres d'hébergement de deux enfants, des orphelinats, où les gens se cachent derrière les recrutements de ces enfants qu'on trouve dans les orphelinats pour soi-disant raison d'encadrement, qui après, comme le disait notre invité tout à l'heure, vous passez par cet orphelinat, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et alors, il faut du contrôle. Parce qu'au niveau de province, quand les gens amènent les documents de Kinshasa, il est difficile que vous puissiez résister. Vous souhaitez qu'il y ait la transparence dans les contrôles au niveau du gouvernement central, mais aussi au niveau local, parce que les enfants sont gérés aussi au niveau des institutions provinciales. Merci beaucoup. Nous avons Pierre qui est à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierrot et la maison.
On vous écoute, Pierre. Nous tendons vers la fin de cette émission. Comment rendre la mesure du gouvernement plus efficace?
Oui, vraiment, j'encourage la mesure du gouvernement par rapport à deux ou trois questions que je trouve que c'est fondé. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler par rapport à un exemple concret que nous avons vécu ici à Kindu. En 2002, 2004, jusqu'à 2005, on avait un orphelinat que je me réserve pour ne pas le citer et que vous remarquerez que dans cet orphelinat-là, il y avait des enfants âgés de 18, de 14 à 15 ans comme ça. Maintenant, vu qu'ils étaient des orphelines, et il y avait des étrangers qui ont sollicité qu'ils puissent récupérer ces enfants, au moins deux qui étaient partis dans le pays donc de l'étranger en question. Mais quand vous rappelez aujourd'hui, vous trouverez que même la famille, donc quand je dis la famille, c'est la famille un peu restreinte, malgré que le papa n'est plus là, mais il y a des oncles paternels qui sont vivants ici. Mais ils recherchent, ils n'ont ni même pas l'adresse de ces filles, et ils n'ont ni même pas d'informations par rapport à toutes ces deux filles-là. Maintenant, on se pose la question, ce que nous pouvons demander, nous encourageons d'abord la mesure du gouvernement, et en plus de ça, nous souhaiterons que cela reste d'abord comme ça jusqu'à ce que les mesures de monitorage et de suivi de proximité soient vraiment établies et avoir l'assurance quand on envoie un enfant à l'extérieur et qu'on soit en contact à tout moment avec la situation de l'enfant. Et en plus de ça, il y a même d'autres cas qui se passent. Parfois, on amène l'enfant et que l'enfant devienne comme un maïbobo au niveau du pays où il est parti. Parfois, la famille adoptive ne s'intéresse ni même pas à leur étude et quoi. C'est la raison pour laquelle nous demanderons au service de migration d'établir vraiment les suivis permanents et savoir comment est-ce que cela va se faire. Et à ce moment-là, le gouvernement peut penser maintenant comment abolir la décision. Mais la décision actuelle est encourageable.
Merci.
Voilà un peu ce que j'avais à demander. Et même la dame qui est là, elle peut nous prévenir avec des mesures de sécurité pour savoir quand l'enfant quitte en dehors du pays, comment est-ce qu'ils font le monitorage pour savoir son état et son évolution par rapport à tout ça. Et Dédé, je voulais savoir à la madame qui est là, est-ce que quand l'enfant quitte et elle part à l'extérieur du pays, est-ce qu'elle perd directement
sa nationalité d'origine ou bien elle a maintenant deux nationalités. Voilà ce que j'aimerais savoir.
Merci beaucoup, Pierre. C'est M. Claver qui est avec nous sur les antennes. On pourra lui poser cette question. Vous souhaitez pour vous que, aussi longtemps qu'on n'a pas encore vraiment tous les contours de ce qui se passe autour de ces adoptions internationales, vous souhaitez que le moratoire du gouvernement soit maintenu jusqu'à ce qu'on puisse tirer toute la situation au clair et comme ça on pourra revenir. Dommage hein, pour cette situation qui arriva à Kindu, ces deux filles qui ont été amenées à l'étranger. Aujourd'hui, les familles n'ont plus de traces, il n'y a plus de contact, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Vous demandez à notre invité si, une fois adopté, l'enfant qui perd sa nationalité ou l'enfant va garder de nationalité. Merci, on pourra lui poser la question après avoir écouté Marcel qui est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour Marcel.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Marcel, on va terminer cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a notre ami de Kindu, Pierre, qui pense qu'il faudrait que le gouvernement maintienne le moratoire hein, par rapport aux adoptions internationales jusqu'au moment où on puisse tirer toute la situation au clair pour assurer vraiment la protection des enfants. Quel est votre point de vue?
D'abord, ça fait mal de constater que jusqu'à nos jours, en RDC, le trafic d'enfants existe toujours. Parce que, bon, pour moi, je dirais que c'est une autre forme de traite. Alors, ce que je proposerais, c'est que le gouvernement, à travers le ministère du genre, famille et enfants, et celui des droits humains, puisse élaborer des projets cadrant en fait la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour réveiller la conscience plutôt de tout un chacun sur cette pratique qui est régulièrement frauduleuse. Mm-hmm. Et si au niveau des frontières, vous constatez qu'il y a trop de dérapages avec les services qui font le suivi sur cette pratique, qu'on puisse mettre peut-être en place des services spéciaux, peut-être qui vont mieux travailler au niveau des frontières. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Marcel. Vous proposez même la création des services spéciaux de contrôle au niveau des frontières hein, pour éviter que les gens contournent la mesure du gouvernement et procèdent à des adoptions internationales illicites. Mais vous souhaitez aussi au niveau du ministère des genre, famille et enfants, qu'on puisse avoir vraiment des campagnes de sensibilisation de la population. Il y a même gens qui a évoqué cela, il faut sensibiliser la population pour que les gens comprennent que c'est livré à de telles pratiques, c'est en défaveur, que ce soit même de famille ou bien de enfants, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils pensent que le fait que l'enfant soit adopté, qu'il se retrouve à l'étranger, c'est aussi procurer de la richesse à la famille, mais il faut des campagnes de sensibilisation. Merci beaucoup à tous les auditeurs. On revient à vous, monsieur Claver, parce qu'on doit terminer cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres hein, plusieurs propositions qui sont très pertinente, de contrôle au niveau des frontières, du renforcement des capacités des agents de migration, au niveau de la justice. Mais il y a aussi cette question posée rapidement par notre ami de Kindu, qui voudrait savoir si l'enfant, une fois adopté, perd la nationalité congolaise, ou bien il peut garder le deux nationalités. Et puis vous allez placer un mot par rapport à tout ce qui a été dit.
Oui, merci monsieur Pierrot. La question est pertinente, je l'ai évoquée avant qu'il la pose, c'est bien. Vous savez que les liens qui est créé par l'adoption, c'est les liens entre père et fils. C'est-à-dire, dès lors que vous adoptez un enfant, il devient votre fils. Il prend votre nationalité, par voie de conséquence.
Mm-hmm.
Chez nous, au Congo, la nationalité congolaise est exclusive. Dès lors que vous adoptez une autre nationalité, vous ne pouvez pas garder la nôtre. Donc, vous adoptez pour une nationalité ivoirienne, vous cessez d'être congolais. Alors, moi, j'ai préféré poser cette question-là pour dire, maintenant que cet enfant quitte, devient l'enfant d'un Belge, l'enfant d'un Canadien, est-ce que nos services publics, notre administration, a-t-elle encore la possibilité de contrôler cet enfant et lui assurer la protection? Parce qu'il devient l'enfant d'un étranger. Donc, ce sont des questions comme ça qu'il faut résoudre. Mais le problème n'en est pas là. S'il faut encourager, accompagner la mesure de l'État, de moratoire, il faut renforcer les contrôles au niveau des frontières. Il faut aussi renforcer les contrôles au niveau des orphelinats, renforcer les contrôles au niveau des services qui octroient des autorisations de fonctionnement à ces orphelinats, à ces ONG. Si vous passez dans ces ministères, vous êtes encore à la porte, vous trouvez des gens qui viennent vous accueillir. Vous voulez quel document? Et les documents sortent comme ça, Si vous allez demander dans les archives, vous n'avez pas de traces d'existence de ces documents. Alors, c'est une insécurité qui est créée en défaveur des enfants. Donc, le problème se pose à deux niveaux. Au niveau de la pauvreté de la population, il faut travailler à améliorer les conditions de vie pour les enfants, pour permettre aux enfants de s'épanouir. Et il faut, au niveau de la destination, il faut aller contrôler, essayer dans la coopération et contrôler la suite, comment les enfants vont vivre, dans quel, et essayer de garder les liens avec les gens qui adoptent. On ne peut pas empêcher l'adoption, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des enfants qui ont aussi besoin de cette adoption pour vivre. Les enfants qui sont nés de violences sexuelles dans la guerre, qui n'ont ni père, ni oncle, alors ils ont quand même besoin d'avoir aussi un père, parce que notre code dit tout enfant doit avoir un père. Mais il faut renforcer les contrôles au niveau international, contrôler à partir de nos ambassades, à partir de nos services de renseignement, de la coopération avec les états d'accueil. Au niveau interne, travailler au niveau des tribunaux, des cours des tribunaux, pour que les juges soient conscients, qu'ils sachent qu'ils disent les droits au nom de l'État, et les lois qu'ils appliquent, c'est dans l'intérêt de la population congolaise.
Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Claver Tshizoubou, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste et assistant à la faculté des droits à l'université de Kinshasa, ici dans la capitale. Nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs, vous avez été très nombreux. Vos points de vue et vos propositions ont été les bienvenus dans cette émission consacrée à la protection des enfants en cas d'adoption internationale. Tout cela pour soutenir la mesure du gouvernement. Merci à tous. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Le monde a célébré le mercredi 16 avril dernier la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. En RDC, plusieurs observateurs estiment que beaucoup d'enfants sont victimes d'une autre forme d'esclavage qui est le travail et surtout dans les secteurs de mines. Que proposez-vous pour mettre fin à cette situation? Merci à Jean-Claude Nsiala qui a mis en nom de cette émission qui a été supervisée par Nicole Ngaka. Berry Franklin Luchaka et Rose Nyanfoura étaient à la réalisation. Pierrot et la Mégie a eu le plaisir de vous la présenter. Parole aux auditeurs, c'est aussi en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa et sur www.radiocapi.net. Au revoir.